Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
On est de retour à Politiquement Incorrect et on va avoir une entrevue avec Jean-Simon Gagné, qui est chroniqueur au quotidien et Le Soleil, qui a fait paraître en fin de semaine un texte super intéressant, humoriste en politique, le pouvoir au comique. Bonjour, Monsieur Gagné.
Bonjour.
Effectivement, ce qui me frappe le plus quand je regarde l'actualité internationale, par exemple, c'est de voir que une des choses qui nous a fait le plus jaser tout l'automne et encore récemment avec la procédure d'impeachment de Donald Trump, c'est une procédure, une discussion qu'il y aurait eu avec le président de l'Ukraine qui était, il y a un an, un humoriste.
Oui, oui, absolument. Volodymyr Zelensky, il s'est fait connaître en jouant dans une série à caractère humoristique où il jouait le rôle justement d'un professeur d'histoire qui devenait président. Et il a été élu essentiellement en jouant son personnage de fiction, en fait, et même son parti politique s'appelait le serviteur du peuple, comme la télésérie.
Incroyable.
Mais disons que Zelensky n'est pas le seul. Là. Vous avez des exemples au Guatemala, en Italie. Moi, j'en ai dénombré 7 ou 8, mais Je pense qu'on pourra en trouver d'autres. Là, il y a des farceurs qui disent que c'est presque une épidémie l'humour en politique.
Mais c'est quand même surprenant qu'il y a une extension dans le cerveau d'une personne qui s'en va voter en disant ben oui, moi je pense que j'ai confiance en ce gars-là. Ça évoque un peu que le vote se fait de façon émotive par rapport à quelqu'un pour lequel on a un bon sentiment.
Oui, c'est possible. Mais il faut dire que quand vous faites du stand-up comique, vous avez une prédisposition à prendre contact avec la foule, à communier avec la foule, à savoir d'ailleurs aussi très bien manier la foule, et vous avez beaucoup de réparties. Mm-hmm. Mais dans les cas un peu que j'ai regardé en fin de semaine, il y a des cas assez différents. Il y a le cas, par exemple, de Al Franken, qui est devenu sénateur du Minnesota. Mm-hmm. Lui, il s'était fait connaître à Saturday Night Live, et ensuite, il a eu son propre show d'humour. Mais lui, quand il est arrivé en politique, il a décidé de se désintoxiquer. Oui, c'est un drôle de lapsus. Donc, quand il est arrivé en politique, il a décidé de se désintoxiquer. Mm-hmm. Il a fait exprès d'arrêter de faire des blagues et même il demandait à son personnel politique de relire toujours ses interventions pour ne pas faire d'humour. Il se comparait à un bébé serpent sonnette qui essaie de contrôler son venin. C'est comme ça qu'il se décrivait. Bon, évidemment, lui, dans son cas, ça a commencé par bien fonctionner. Il a été élu. Il a même été réélu une deuxième fois. Mm-hmm. Il s'est attiré la réputation d'être un élu extrêmement consciencieux. Donc, il étudiait bien ses dossiers, sauf qu'il a été rattrapé par un peu son passé et ses phrases qu'il a été accusé par plusieurs femmes d'avoir eu un comportement inconvenant, il a dû démissionner. Vous avez différents. J'ai parlé aussi de Coluche. Lui, c'est un peu le précurseur. Mais Coluche, lui, quand il s'était. C'est un humoriste français. Quand il s'est présenté en 1981, Coluche, au début, c'était une grosse farce. Et assez rapidement, ça s'est mis à fonctionner. Et à un moment donné, il était à 16% dans les sondages. Donc, il s'est mis à se prendre au sérieux et là, sa campagne a commencé à déraper. Il a fini par abandonner, lui, avant, justement, de se rendre aux élections.
Mais c'est drôle parce que le souvenir que moi, j'en avais, c'était un peu que lui-même avait décidé de mettre un terme à tout ça. Tu es en train de dire que ça a plutôt déraillé parce qu'à un moment donné, c'était beau d'avoir des commentaires éditoriaux sur les politiques publiques, mais qu'en bout de ligne, c'était peut-être un peu plus complexe qu'il ne le croyait.
Ouais, ben ça c'est ce qu'il a dit un peu pour sauver la face. Dans les faits, sa campagne avait complètement, il était complètement dépassé par les situations. Il recevait des milliers de lettres de gens désespérés qui voulaient, qui lui demandaient de régler leurs problèmes. Il recevait des lettres de menaces. Donc, la campagne était en train complètement de lui échapper. Là. C'était, comme il l'a dit, là, c'était plus drôle. Là.
Exact. Mais M. Zelensky, lui, a quand même été élu avec un mandat ultra fort. Je pense que, si je me souviens bien, c'est de l'ordre de 80%.
C'est presque ça, c'est 73.
C'est incroyable quand même. Et les gens se disent, ben moi, à la télévision, j'ai cru ce gars-là, j'ai trouvé que c'était crédible. C'est ça le genre de président que je voudrais avoir. Puis les gens font l'extension jusque-là. C'était un humoriste, mais c'était aussi une série de fiction. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'intérêt que la course au PQ actuellement, l'intérêt que suscite Guy Nantel?
Ben, je sais pas, parce que on va voir un peu, il est un peu tôt pour le dire, mais moi j'ai hâte de voir un peu quelle stratégie il va prendre. Est-ce qu'il va prendre un peu la stratégie, comme je vous disais, d'essayer de mettre de côté l'humour, ou au contraire, est-ce qu'il va jouer son personnage d'humoriste jusqu'au bout? C'est là qu'on va voir, en fait, ça dépend un peu de la stratégie qu'il va utiliser.
Ben, il faut dire aussi que M. Nantel s'est spécialisé dans un humour un peu de type chronique de société. Il était très critique. Alors, entre autres, on se rappellera bien sûr là, de ses vox pop sur la rue où il demandait aux gens s'ils suivaient la politique. Il y a une liaison naturelle, bien sûr.
Ah oui, absolument. Oui, c'est ça. C'est vrai que lui, il était dans un registre, il était tout de même proche de la politique, là. C'est pas le cas pour tous les humoristes en politique. Vous avez par exemple au Guatemala Jimmy Morales qui est devenu président et qui lui le plus proche qui s'était approché de la politique en fait c'était il avait joué un cowboy qui devenait président par accident.
Parlez-moi de John Ignar en Islande, parce que en Islande c'est quand même particulier là. L'Islande c'est l'endroit où la première ministre est toute jeune. C'est une jeune femme qui a d'ailleurs elle-même fait un peu dans le vidéoclip, si je me souviens bien, elle faisait de la chorégraphie. Est-ce que Ignar s'installe dans la même vision que Morales ou
Oui et non, c'est-à-dire que Lui, c'est un humoriste très sarcastique, si vous voulez. Lui aussi, il était un peu dans un registre où il se moquait de la politique, mais il était très politisé. Mais je pense que lui, au départ, ne s'attendait pas du tout à être élu. Mm-hmm. Son parti s'appelait Le Meilleur Parti. Ils avaient fait un vidéoclip sur la musique de Simply the Best de Tina Turner. comme il est entouré par beaucoup de musiciens, ça avait donné un bon résultat, en tout cas du point de vue technique, si vous voulez. Sauf que ses promesses étaient tout à fait loufoques. Il parlait d'un ours polaire au zoo. Il parlait d'interdire les drogues au Parlement islandais en 2020. Évidemment, c'était un clin d'œil aux parlementaires qui, peut-être à l'occasion, fumaient un joint ou prenaient autre chose. Il voulait aussi, par mesure d'économie, imposer un seul Père Noël au monde. Donc, vous voyez...
Ah oui, le Père Noël islandais d'origine, McCoy, bien sûr. mais d'ailleurs, dans votre papier, vous référez à Frédéric Becbédère qui ne semble pas partager l'espèce d'insouciance générale au fait de la popularité de ces gens, de ces comiques qui s'improvisent en politique.
Sauf que lui-même, ayant versé dans l'humour, je ne sais pas s'il est très bien placé pour en parler, sauf que j'ai terminé avec une de ses phrases où il dit « Aujourd'hui, si on était à bord du Titanic, il n'y aurait plus d'orchestre pour accompagner le naufrage, mais un comédien stand-up qui dirait « Oh wow, les gars, vous trouvez pas que c'est vachement humide par ici?
» En tout cas, avec les enjeux qu'on vit actuellement, avec les crises internationales qu'on parce que honnêtement, ce matin, n'importe qui se réveille en buvant son café puis qui lit le journal ou qui écoute la télé ou la radio ou qui nous écoute et qui constate à quel point l'inquiétude autour du coronavirus s'accentue, il faut se rappeler quand même qu'on confie à nos directeurs, à nos politiciens, nos politiciennes, le volant de notre véhicule de société. On rigole plus rendu là.
Non, ça c'est sûr. Ça en effet. Mais peut-être que c'est ça aussi. Il y a peut-être un peu de ça aussi. On cherche quelqu'un qui va être capable d'avoir à l'occasion un ton léger. Je sais pas, c'est un peu quelque chose de difficile à saisir, cette popularité des humoristes en politique.
Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fait que la statistique qui disait que les films avec des super-héros étaient en hausse de production lorsqu'on avait un système politique aux États-Unis qui donnait moins d'espoir, je pense. Il y avait un parallèle, en fait, que lorsque les républicains étaient au pouvoir, il y avait une fantaisie d'aller voir plus de films de fiction, plus de films fantaisistes qui donnaient des solutions magiques aux questions de société, alors que c'était l'inverse quand il y avait des démocrates au pouvoir. Alors, les gens, effectivement, cherchent un soulagement dans cette situation-là.
Ah oui, c'est très intéressant. Je vais me pencher sur la question.
Ben, merci beaucoup, Jean-Simon. C'était un plaisir de parler avec vous. On continue de vous lire dans le soleil. Vous écoutez Politiquement Incorrect.